Dans cette émission, La Voix du Colibri, nous retrouvons Célina Whittaker, la coordinatrice nationale du projet SOL, une monnaie expérimentale. Célina est animatrice du réseau Nouvelles Richesses. Elle participe à la dynamique des forums sociaux mondiaux sur les thématiques de l'économie sociale et solidaire et des monnaies complémentaires. Je reviens à la notion de richesse. Je pense aussi à l'équilibre. Pour trouver un équilibre dans la nature, c'est important d'avoir un système équilibré, un écosystème, une diversité au niveau du vivant. Et on peut parler de richesse, de la biodiversité pour qu'un système écologique fonctionne bien. Dans la monnaie, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de diversité. Je ne vois que l'euro. Est-ce que ce serait intéressant d'avoir aussi une diversité au niveau des monnaies pour que le système fonctionne bien? Est-ce que ça marcherait de la même manière?
Alors ça, c'est cette question de la diversité monétaire, c'est quelque chose qui est porté très fortement par une personne qui s'appelle Bernard Liétard, qui est un grand penseur, on va dire, et activiste aussi des monnaies complémentaires, après avoir eu un parcours où il est passé par la Banque Centrale de Belgique, etc. Je suis d'accord avec lui. Après, j'arrive pas à me projeter dans un futur, mais je pense que de toute façon, je suis un peu pragmatique quelque part quand même, et je pense que de toute façon, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et si on veut le faire avancer, la diversité monétaire est absolument nécessaire. Elle est absolument nécessaire parce qu'on a vu, l'euro, il nous coince. La monnaie officielle nous coince dans une certaine façon de faire, et en fait, elle dans une certaine façon de voir les choses, qu'on le veuille ou non presque. Ça nous coince vers ça, parce qu'il y a la tendance vers les bulles spéculatives qui rapportent plus. Il y a tout un système qui est organisé autour du fait que l'argent rapporte. Donc il faut absolument qu'on construise d'autres outils monétaires qui soient organisés sur d'autres bases. Et donc dans ce sens-là, pour moi, c'est ça la diversité monétaire aujourd'hui. Et après, il faut qu'on... En fait, on est dans ces tentatives, en fait. Hein, et il y a aujourd'hui les monnaies économiques qui essayent de transformer en fait, la façon de s'organiser autour de l'économie. Il y a les monnaies citoyennes, il y a les monnaies temps. Et je pense que, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, la diversité monétaire, elle est absolument nécessaire pour reconstruire des outils qui nous permettent d'avoir d'autres échanges. Après, sur le long terme, je suis assez d'accord avec le parallèle que fait Bernard avec la question de la nature, et il montre bien que pour l'équilibre en fait, de la nature, on a besoin de cette biodiversité. Effectivement, c'est très parlant comme image, et j'imagine qu'il y a une grande part de vérité là-dedans. Après, je dis, bon, allons-y, prenons ça comme image, parce que ça nous permet de s'ouvrir à construire des petits outils, enfin petits, ils peuvent être grands, mais par rapport à la grande monnaie officielle, on va dire, hein, ça nous permet de construire des petits outils pour à chaque endroit, à chaque moment, en fonction des objectifs qu'on peut avoir comme groupe, se donner un outil de médiation tel que la monnaie pour faciliter les échanges, et de vraiment avoir cette créativité en fait sociale et monétaire, on va dire, et puis voilà. Du coup, après, on sera comme ici aux Amanins, qui ont un objectif par rapport à la Terre, je dis, hein, par rapport à la particulature de la Terre, qui ont un objectif agroécologique et qui se frottent en fait à des réponses existantes, à des réponses non existantes, qui expérimentent, qui évoluent. Et je pense, moi, que dans cette question monétaire, ça sera un peu la même chose. Il faut simplement, comme ici aux Amanins, ils ont une charte qui montre bien le sens dans lequel ils veulent aller. L'important, c'est qu'on ait en nous-mêmes, quelque part, cette charte qui est de dire, en fait, on veut construire un outil, un monde riche de tous ces êtres humains et riche de la nature dans cette interaction.
Est-ce que tu peux me donner un exemple parlant de ce qui existe déjà en termes de monnaie complémentaire en France ou ailleurs ?
Ah ben, y a pas mal d'exemples. En France, y a beaucoup de ce qu'on appelle les monnaies, ce que beaucoup de gens appellent les monnaies locales, les monnaies complémentaires locales, que d'autres appellent des monnaies citoyennes. Je crois qu'ici, aux Amanins, aujourd'hui, il y a Fred de Toulouse, qui est porteur donc, du projet du sol violette à Toulouse. Donc, ils sont des monnaies dont l'objectif, c'est de développer l'économie locale et une économie respectueuse des hommes et des citoyens, qu'on l'appelle comme ça, qu'on l'appelle sociale et solidaire, qu'on l'appelle économie respectueuse de l'écologie, c'est pas très grave. La question, c'est le développement de cette économie-là, et en fait, la prise de conscience par les personnes que le fait de choisir où est-ce qu'on va consommer et ce qu'on va consommer, on a aussi un poids. Parce que, en fait, on donne on permet le développement de cette entreprise ou de cette autre entreprise en fonction de l'endroit et du type de produit qu'on choisit de consommer. Donc c'est un projet avec un double levier, le levier de dire en fait on va favoriser le développement de ces entreprises-là en choisissant de consommer ce dont on a besoin dans ces entreprises-là. Fred, il dit beaucoup la monnaie comme bulletin de vote, parce que, en fait, pour se rendre compte que nous, comme consommateurs, on a aussi un poids. Hein, si on n'avait pas de poids, il n'y aurait pas de pub. En France aussi, en ce moment, il y a le développement de ce qu'on appelle les accorderies, qui est un système qui nous vient du Québec, mais qui existe beaucoup sous des formes un petit peu différentes en Angleterre, en Espagne, en Italie, qui sont en fait quelque part un peu des banques du temps, hein, et qui sont des systèmes là justement d'échange de temps entre des personnes pour l'entraide. Hein. Par exemple, les banques du temps en Italie, elles sont nées de groupes de femmes qui avaient besoin de s'organiser par rapport à leur double ou triple journée. Et donc, c'était de l'entraide entre femmes pour pouvoir faire face à tout ce qu'elles devaient faire, de s'entraider pour aller chercher les gamins, pour faire des courses, pour ceci, pour cela. Et bah, les banques du temps en Italie, elles sont nées autour de cette problématique-là. C'est vraiment de faciliter l'entraide. Au Brésil, il y a beaucoup d'exemples de ce qu'on appelle les banques communautaires, qui sont très intéressantes aussi parce que sont des banques dans des quartiers pauvres. Hein. La première d'entre elles est née dans un quartier de la ville de Fortaleza, dans le nord du Brésil, qui s'appelle le quartier Palmas. Et c'est intéressant aussi de voir comment elle est née. En fait, ce quartier-là, c'était un quartier de... c'était des pêcheurs. Donc, qui étaient sur la côte Fortaleza et sur la côte nord, on va dire, du Brésil. Et donc, c'était des pêcheurs qui étaient sur la côte et qui exerçaient leurs activités de pêche. Et en fait, ils ont été délogés parce qu'on voulait construire des complexes touristiques, parce que c'est effectivement très beau par là-bas. Et ils ont été obligés de repartir de zéro, de tout construire. Et les premières années, ça a été une lutte très forte de ce groupe-là qui s'est vraiment constitué en communauté, en groupe, pour en fait construire leur quartier. Donc ils ont fait des systèmes d'autoconstruction, on dirait, mutirão, comme on dit au Brésil, de construction collective pour construire les maisons. Ils se sont battus pour avoir l'assainissement, pour avoir l'eau potable, pour avoir l'électricité qui arrive jusque-là, pour avoir un minimum de routes. C'est-à-dire en fait ils ont fait tout ce travail-là dans une bataille avec les pouvoirs publics, mais aussi une interaction avec les pouvoirs publics et une participation réelle des gens dans la construction de tout ça. Tout s'est fait par mutirão, c'est-à-dire par entraide. Et quand ils ont fait tout ça, donc ils étaient heureux, ils avaient un quartier habitable, on va dire, et en fait ils se sont rendus compte que les gens commençaient à partir du quartier parce qu'on commençait à devoir payer l'électricité, à devoir payer la taxe d'habitation, même si ce n'était pas très fort. Enfin voilà, il y avait tout ça à commencer à payer. Ils se sont rendus compte que les gens qui avaient tellement lutté pour avoir ce quartier, ils ont commencé à partir du quartier, ils ont dit « c'est pas possible, là il faut qu'on fasse quelque chose ». Donc ils ont commencé à s'interroger « comment est-ce qu'on peut faire pour garder la richesse dans le quartier ?» Et du coup, ou dans le quartier, dans le sens aussi chez les habitants de ce quartier-là. Et ils ont fait une enquête avec l'ensemble des habitants du quartier en leur demandant « combien est-ce que d'argent est-ce que vous recevez par mois ?» Que ça vienne de l'aide sociale, que ça vienne de la mendicité, que ça vienne de... On s'en fiche. Combien est-ce que vous avez ? À quoi vous le dépensez ? Et où est-ce que vous le dépensez ? Et ils se sont rendus compte que, en fait, cet argent-là, il était dépensé dans les grandes entreprises, dans les grands supermarchés, pas trop chers, etc., et en centre-ville. Donc on avait en fait un déplacement de la richesse du quartier vers le centre-ville. Et c'est comme ça qu'ils ont créé la première monnaie communautaire qui s'appelle le Palmas, pour se dire en fait il faut simplement qu'on garde la monnaie dans le quartier. Donc c'est une monnaie qui est couplée à un système de microcrédit. Dans quoi est-ce que les personnes dépensent ? Quelles sont les entreprises qu'on peut créer dans le quartier pour répondre à ces besoins-là ? Quels sont les petits commerces qu'on peut mettre en place dans le quartier pour répondre à ces besoins-là ? Comment est-ce que les gens vont pouvoir ensuite, du coup, dépenser plutôt dans le quartier, du coup, favoriser l'activité économique du quartier et dans ça, favoriser y compris l'emploi, voilà, des gens du quartier, c'est-à-dire en fait développer un peu les possibilités économiques du quartier. Donc c'est une histoire qui est très intéressante parce qu'on voit bien que la monnaie, elle arrive à un moment pour donner une direction, pour permettre quelque chose, quoi.
Par rapport à ta culture, tu disais donc au début tu es brésilienne, est-ce que ça t'a apporté quelque chose, cette interculturalité, dans le combat que tu mènes aujourd'hui sur les monnaies et sur la richesse ?
Sans doute. C'est très difficile pour moi de le dire. En fait, je suis fille de mes parents, mais surtout, en fait, mes parents sont partis au Brésil, du Brésil en 66. Au Brésil, il y a eu un coup d'État en 64, donc avec les militaires qui ont pris le pouvoir. Et c'est suite à ça que mes parents sont partis du Brésil. Donc, en fait, moi, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais enfant et ado. J'ai habité en France, j'ai habité au Chili, j'ai habité en Argentine. Bon, j'avais mon enfance au Brésil. Ensuite, quand il y a eu l'ouverture au Brésil, je suis repartie, j'ai habité un temps au Brésil. Donc, j'ai beaucoup voyagé. J'ai un peu de difficulté de dire ce qui vient de ma culture brésilienne, ce qui vient de ma culture française. Ou ce que je sais, c'est que ces voyages m'ont sans aucun doute permis et aidé d'avoir une grande ouverture, et de me dire en fait que j'ai pas du tout de vérité, même dans ma façon de voir les choses, c'est-à-dire en fait d'avoir cette ouverture pour se permettre de construire ensemble avec les autres sans a priori, hein, et d'être en permanence reconstruction. Je pense vraiment que cette double ou même triple culture, si on voit un peu avec tous un peu partout où j'ai habité, c'est ça, c'est de quand il y a quelqu'un d'autre en face, on sait que cette personne-là n'aura pas une structure de sa pensée ou de sa façon de voir le monde qui sera la même que la tienne. Parce qu'on a déjà vécu ça dans le quotidien sans se le formuler comme ça. Mais en fait, on sait ça. Donc ça, c'est un point qui, pour moi, me semble essentiel. Après, c'est sûr que si on va chercher un petit peu plus loin dans la constitution de ces cultures, c'est vrai que la culture brésilienne est beaucoup plus moins rationnelle, peut-être moins cartésienne que la culture française. On laisse beaucoup plus de place au ressenti ou à à la joie du moment, voilà, au soleil, à la chaleur, voilà. Je sais même pas comment l'exprimer tout ça, mais c'est sûr que ça joue. Hein, ça joue aussi dans cette façon d'aller de l'avant, dans la joie en fait, d'avoir ce côté un peu, voilà, on peut avancer dans la joie.